France Inter.
Astrobiologie. Du coup, astro, les astres, les étoiles, le ciel, et biologie, la vie, l'étude de la vie. Bah moi, je me dis que c'est pas possible comme on est. Genre, il y a autant d'étoiles, autant de planètes. Je me dis que c'est pas possible qu'on soit tout seul.
Bonjour à toutes et à tous, terriens, terriennes, mais aussi et auditeurs éventuels de l'exoplanète 4218b. Oui, à la veille des audiences médiamétriques, il vaut mieux oublier personne, mais surtout, si je ratisse si large cet après-midi, c'est qu'on va zoomer sur un mot qui va nous entraîner très très loin, et j'aimerais d'ailleurs en profiter pour clouer le bec aux critiques, à ceux qui prétendent que dans Zoom Zoom Zen, on serait perpétuellement en quête du terme le plus what the fuck possible, sous l'impulsion d'un rédacteur en chef dont l'addiction au crack le déconnecterait du réel. Ces odieuses rumeurs sont infondées, preuve en est, aujourd'hui, on zoome sur l'astrobiologie. Thème concernant s'il en est, tant au moment de l'orientation post-bac, la question se pose dans tous les foyers, toutes les familles, pour tous les étudiants. Alors, plutôt droit public, médecine ou astrobiologie? L'astrobiologie ou exobiologie, mais c'est encore plus impressionnant, est pourtant une discipline fascinante, scientifique, mais aussi, on va le voir, philosophique, puisqu'il s'agit de répondre à la vertigineuse question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» À quoi pourrait ressembler d'ailleurs une forme de vie extraterrestre? Qu'est-ce que l'astrobiologie nous raconte des origines même de la vie sur Terre? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour m'accompagner dans ce voyage interstellaire, une étoile montante du journalisme français, bonjour Manon Mariani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors chaque jour, vous analysez ce qui émerge sur les réseaux sociaux, et là, alors qu'on essaye de prendre de la hauteur, de viser les étoiles, vous nous ramenez brutalement à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, la monétisation sur YouTube.
L'argent, toujours l'argent, ouais. Mathieu. La plateforme de vidéo est en train de mettre en colère beaucoup de YouTubeurs dans le monde, car ils se font démonétiser leurs vidéos d'un coup. Mais pourquoi? Comment? Je vous explique les raisons dans ma veille sanitaire.
Face à vous Manon, alors la présence de Quentin Lhuy parmi nous aujourd'hui, alors même que Lorne Hebdo lui consacre sa une et un portrait dithyrambique, pose problème. En effet, ce n'est jamais bon qu'un chroniqueur d'une émission soit plus mis en avant que l'invité lui-même, surtout quand l'invité est une astrobiologiste directrice de recherche à la NASA. Mais là, on est obligé d'évoquer cet article, l'article de la consécration. Alors, le titre devait être, selon Quentin, l'enfant prodige d'Alençon. Finalement, il a dû se contenter de Quentin Lhuy, le micro-trotteur de France Inter. Mais bon, il est en une, ce qui au passage en dit long sur l'intensité de l'actu dans l'ordre cette semaine.
Soyez sympa avec ma région.
Un portrait, c'est aussi la mienne, un portrait ébouriffant où la star se confie comme jamais. Extrait. Après mon BTS de commerce décroché au lycée Marguerite de Navarre, j'ai animé une émission sur Radio Pulse. Elle s'appelait Dans ton transistor. Avec mes amis Greg, Pierre-Alain, Julien et Anthony, on parlait musique, ciné, BD pendant 2 heures. Et ça jokait bien. Ça jokait bien. C'est à ce moment de l'interview que le journaliste a dû l'interrompre pour lui dire « Mais vous avez vraiment 31 ans ?» Quentin Lhuy, bonjour.
Bonjour Mathieu, quel accueil.
Est-ce que ça farte Quentin?
Vous avez vu, j'ai fait jouer mes réseaux. Hein. Alors c'est mes modestes réseaux.
Ah mais c'est bien joué. Hein.
Mais quand est-ce qu'on va? C'est à vous. Vous attendez juin?
Attendez, je vais passer 2-3 coups de fil et on ira peut-être en juin. Ça nous sera utile.
Oui, bah voilà.
Pour l'année. Alors vous êtes la nouvelle idole de la jeunesse alençonnaise. On parle d'un projet de statue à votre effigie dans les toilettes du Bayocos. Mais est-ce que néanmoins vous accepteriez de nous parler quand même de votre micro-trottoir sur l'astrobiologie?
C'est fou ça, vous n'allez pas vous en mettre de cet article.
Vous êtes jaloux Mathieu.
Ça c'est sûr.
Télérama arrive.
Oui bah j'espère.
Pardon, papy. J'en ai profité pour enregistrer à Alençon justement. Est-ce que la vie qui pourrait exister ailleurs vous fascine? Oui, non, on ne trouvera jamais. Vos réactions sur l'astrobiologie complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Alors Quentin, je le disais, votre CV laisse rêveur, un BTS de commerce au lycée Marguerite de Navarre, ça claque. Mais peut-être un petit peu moins que le CV de notre invité. Bonjour. Merci. Nathalie Cabrol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc astrobiologiste. Vous bossez très loin d'Alençon, à Mountain View, en Californie, à 2 pas du siège de Google. Vous êtes chercheuse pour la NASA et directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI. C'est un institut dont le but est, je cite, d'explorer, comprendre et expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers. Vous venez de publier un livre magnifique, À l'aube des nouveaux horizons, aux éditions du Seuil. Et vous êtes de passage quelques jours à Paris. On ne pouvait donc pas vous rater hein, si on voulait avoir avec nous la spécialiste pour parler de la vie extraterrestre. Vous allez nous expliquer votre travail, nous parler de vos découvertes. Mais d'abord, ses connaissances en astrobiologie, il les tire essentiellement du film Mars Attacks. Voilà. Sa préoccupation principale n'est pas de savoir s'il y a de l'oxygène sur K2-18b, mais des côtes de bœuf maturées. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Chaque après-midi, c'est vous qui remontez aux origines de notre mot du jour, et certains jours, c'est plus difficile que d'autres.
Normalement, il y a un lancement.
Que je n'ai pas.
Cyril, d'où ça sort ?
Que je n'ai pas.
Très bien, très bien. L'astrobiologie, d'où ça sort, Cyril ?
Ah oui, d'où ça sort, Cyril ? Ça, c'est la phrase consacrée.
Oui, voilà.
Je me laisse un peu aller, mi-janvier.
Eh bien, je ne sais pas.
Oh, oh, oh.
Et puis, je n'ai pas cherché. Parce que, Nathalie Cabrol, voyez-vous, si vous saviez comme je suis content que vous soyez là. Alors, ok, pas content comme quand j'ai rencontré Bono dans le studio d'à côté, mais content très haut dans l'échelle du content. Car, quand je vous ai vu la semaine dernière chez nos amis de quotidien, j'ai dit à Mathieu...
Ah, il était comme un dingue.
C'est bon, on va pouvoir faire notre émission sur les ovnis. J'ai trouvé notre invité, Nathalie Cabrol. Alors, lui, il vient d'Europe 1. Donc, il a pensé à Laurent Cabrol. Il m'a dit qu'une émission sur la météo, non, il en voulait pas. Ne lui en voulait pas, ce gars. C'est un brave garçon, mais comme dit mon grand-père, c'est le genre qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Bref, Nathalie, merci d'être là.
Merci à vous.
La quête d'une autre forme de vie que la nôtre. Mais quel incroyable job vous faites, Nathalie Cabrol. Dites-nous, est-ce que vous aussi, vous avez pleuré en voyant E.T. ? Est-ce que votre vocation, elle vient de là ?
Non, j'ai pas pleuré. E.T. m'a fait rêver et ma vocation, elle est née un petit peu avant. Elle est née avec moi, vraiment. J'ai jamais rien voulu faire d'autre.
Oui, c'est beau ça.
C'est beau, ouais. Effectivement, Cyril, je vous sens ému.
Parce que astrobiologiste, il faut y penser quand on va voir le conseiller d'orientation en troisième. Moi, j'avais dit avocat. Bon, bah, je suis journaliste. L'astrobiologie, en revanche, c'est une science. À ne pas confondre avec l'astrologie. Manon pensait, par exemple, qu'on recevait une consoeur d'Elisabeth Tessier et que vous alliez lui tirer les cartes. Alors non, c'est pas ça.
Écoutez, je ne renonce pas, Cyril. J'en reviens à l'astrobiologie. Essayez quand même de nous dire d'où ça vient.
Oh, quel rabat-joie ce garçon. Bon, eh bien. C'est un autre mot, il y a un autre mot pour dire astrobiologie, c'est l'exobiologie, vous l'avez mentionné Mathieu, une science née dans les années 60, c'est un terme inventé par le généticien Joshua Lederberg, un pionnier de la biologie moléculaire, prix Nobel de médecine en 1958, et c'est donc par lui que tout a commencé. Je disais que vous cherchiez des petits bonhommes verts, mais en fait votre job est drôlement plus sérieux. L'astrobiologie, ça consiste à étudier les possibilités de la vie ailleurs que sur Terre. Bon Nathalie, on est d'accord, ça c'est pour faire bien sur votre fiche Wikipédia, mais en vrai, vous aussi vous voulez savoir si ça c'est vrai.
Absolument.
Et merci Cyril, et comme quoi j'étais mauvaise langue en disant que votre connaissance de l'astrobiologie se limitait à Mars Attacks, vous connaissez aussi E.T. Nathalie Cabrol, restons un instant sur ce que demande Cyril. Être astrobiologiste, est-ce que ça demande d'être un believer, comme on dit en américain ? Est-ce que de croire à l'existence d'autres formes de vie, c'est un prérequis pour embrasser cette profession ?
Ce serait définitivement pas un prérequis parce que ce serait pas scientifique, on n'a pas de prérequis,
oui,
on n'a pas de croyance. On regarde les évidences, on regarde les preuves, on se documente, on a des hypothèses, et puis on trouve des preuves où on n'en trouve pas. Mais la croyance, ça ne fait pas partie de la démarche scientifique.
Est-ce que parmi les... Déjà, il y a combien d'astrobiologistes ?
Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. C'est une discipline qui a donc démarré, le mot lui-même est des années 60, mais la discipline avec le premier institut d'astrobiologie, ça date de 98. Et depuis, eh bien, des chercheurs comme moi, nous avons eu pas mal d'étudiants qui aujourd'hui sont des chercheurs à part entière, qui ont leurs étudiants. Donc, on en est à plusieurs milliers maintenant, et puis dans le monde entier, c'est pas seulement aux États-Unis.
Quand on lit votre livre, À l'aube de nouveaux horizons, ça fait quand même pas l'ombre d'un doute que pour vous, vous avez... On va dire, c'est pas scientifique, mais l'intime conviction statistique, vous le dites, qu'il serait logique qu'il y ait d'autres vies que la nôtre, d'autres formes de vie dans l'univers.
C'est une condition qui est basée, comme vous le dites, sur les chiffres, tout simplement, parce qu'on peut les prendre dans n'importe quel sens. Quand vous avez autant de planètes que d'étoiles dans notre galaxie, c'est-à-dire entre 200 et 400 milliards, et que vous avez au moins 300 millions de planètes dans la zone habitable de leur étoile, même par accident, il y a 125 milliards de galaxies dans l'univers.
Oui, mais est-ce que la vie, telle qu'on la connaît en tout cas sur Terre, c'est pas le fruit d'une telle addition de hasard qu'on peut imaginer aussi que statistiquement c'est tellement rare qu'il est possible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs ? Non.
Alors, il y a deux choses. La vie, comme vous et moi, comme les humains par exemple, dirons-nous, et en fait la vie qui est... avancée, complexe sur Terre, c'est une infime partie. En fait, l'ensemble de la vie sur Terre est pratiquement microbienne, c'est 95% les microbes. Hein. Mais arriver à un humain qui nous ressemble, effectivement, il y a beaucoup de hasards, il y a beaucoup d'interventions du genre astéroïdes, les dinosaures en savent quelque chose, il y a des événements qui sont des événements géologiques, etc. C'est pas tellement ça, c'est comment ces événements vont aiguiller l'évolution de la vie. Mais la vie en elle-même, les briques de la vie sont déjà contenues dans les planètes. Ensuite, c'est une question de timing. Si
c'est ces briques-là de la vie dont on est sûr
quasiment, statistiquement, qu'elles oui. existent ailleurs, quelque part.
Ah non, on le sait, elles sont partout. Les briques elles-mêmes, ce qu'on appelle les briques de la vie, c'est-à-dire... soit les atomes, par exemple, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc., ou les molécules organiques, qu'elles soient simples ou complexes, on les trouve partout, même dans le milieu interstellaire ou le milieu interplanétaire. On les trouve dans les comètes, on les trouve dans les astéroïdes. Elles font partie des planètes quand elles sont formées. Ensuite, c'est qu'une question d'environnement pour savoir si elles vont trouver un milieu favorable ou pas. Donc, pour moi, c'est pas une question de savoir si la vie a une chance d'apparaître ou pas. Les conditions, elles existent partout dans l'univers. Ensuite, arriver à des formes qui sont humaines, je dirais que même par accident, quelque part, il y a quelqu'un qui nous ressemble. Pas vous et moi, nécessairement, mais la forme, simplement par accident.
C'est vrai que déjà, par exemple, Quentin ressemble beaucoup à Panayotis Pascaud, l'humoriste. C'est vrai que ça, c'est le hasard. En drôle, et c'est ça, le hasard quand même fait parfois bien les choses. Elle aussi, c'est une comète, une étoile. Elle a indéniablement marqué l'histoire. Et même si elle n'a jamais eu de portrait dans l'Orne Hebdo, elle n'en reste pas moins une figure de la chanson française. Voici Vanessa Paradis avec Divine Idylle sur Inter. Vous écoutez Zoom Zoom Zen, la première émission radio de l'histoire à répondre clairement à la question « Les extraterrestres existent-ils ?» Réponse de notre invité, ce serait une absurdité statistique qu'ils n'existent pas, et c'est pas n'importe qui, puisque Nathalie Cabrol est avec nous, astrobiologiste. Il faut se faire une idée, en revanche, il faut se préparer au fait que si jamais on rencontre une vie extraterrestre, elle n'aura en aucun cas une forme proche de l'homme ou des animaux même. C'est une possibilité qu'on écarte ou non, on y croit encore ?
Non, c'est pas forcément quelque chose qu'on écarte parce que la nature répond de certaines façons à certains défis. Par exemple, quand on regarde sur la Terre, les yeux ont été inventés de 30 ou 32 manières différentes, complètement indépendamment. Et pour essayer d'interagir avec son environnement, eh bien, il faut avoir des senseurs, il faut avoir des récepteurs. Donc, il y a certaines réponses à l'environnement qui sont probablement universelles. Ça ne veut pas dire que des extraterrestres nous ressembleraient forcément. Quand on regarde, par exemple, la vie sur Terre, on a des mammifères marins, on a des oiseaux, ça dépend véritablement du milieu dans lequel ils évoluent.
On parlait des briques de la vie tout à l'heure. Quelles sont les conditions, les prérequis obligatoires pour qu'il y ait la vie ? J'ai lu et j'étais étonné qu'il fallait une atmosphère, mais pas forcément d'oxygène, par exemple.
Non. Au début de la vie sur Terre, l'oxygène, non. Hein, c'est sous la Terre ou au fond des océans. C'est donc une énergie qui est chimique, pas du tout liée au Soleil. Il n'y a pas de photosynthèse, c'est simplement ces petites algues bleues et vertes qui arrivent et puis en fait qui créent la première catastrophe écologique il y a 2,5 milliards d'années. Ça nous dit peut-être quelque chose. Après tout, on a des bons ancêtres. Et la pollution qu'ils ont laissée derrière eux, c'est l'atmosphère qu'on respire aujourd'hui.
Incroyable. J'ai lu dans un magazine de référence, hein, réservé vraiment aux spécialistes, Science et Vie Junior, qu'il y avait des planètes, des exoplanètes avec des océans. Est-ce que là, on peut vraiment être optimiste sur le fait qu'on va trouver la vie dans l'océan ? C'est là qu'elle est née.
Aujourd'hui, ça se dispute. Il y a pas mal de gens qui pensent que la vie est apparue plutôt sur les continents.
D'accord.
Mais en tout cas, le milieu n'est pas tellement dissemblable. On parle toujours de sources d'eau chaude, que ce soit au fond de l'océan, autour des fumeurs noires ou des fumeurs blancs, ou alors autour de volcans sur la Terre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des cycles, apparemment pour la chimie, des cycles secs et des cycles plus humides, donc en faveur de la partie continentale. Mais oui, c'est...
Manon ?
Est-ce que nous-mêmes, on peut être les extraterrestres d'une autre forme de vie ?
Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'il y a quand même, en tout cas, des extraterrestres. Nous sommes des extraterrestres par définition, parce que les briques de la vie, elles sont formées dans les étoiles. Donc, on est issus de générations d'étoiles. Donc. Mais plus près de chez nous, et il y a 4,5 milliards d'années, Mars s'est formé un tout petit peu plus tôt, s'est refroidi un tout petit peu plus tôt que la Terre, avait des conditions assez similaires, et avait un océan à sa surface. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des morceaux de Mars qui arrivent sur la Terre. On a des météorites martiennes, on le sait. On sait d'où elles viennent, on a examiné l'atmosphère dans les bulles qui restent à l'intérieur de ces roches. Et donc, il y a des théories pour dire que peut-être nous sommes les Martiens que nous cherchons, que peut-être la vie a démarré sur Mars. Et
c'est peut-être, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des preuves formelles que la vie a existé sur Mars ?
Non, on n'a pas encore de... Non. Et ça aussi, c'est un petit peu la confusion dans l'esprit des gens, c'est qu'on n'a pas vraiment cherché la vie sur Mars. Encore la seule fois où on l'a cherché, c'est en 1976 avec la mission Viking. Et là, il y avait des expériences de biologie. Mais les résultats étaient tellement ambigus qu'on s'est rendu compte véritablement qu'on ne connaissait pas assez l'environnement martien pour essayer de démêler la vie de l'environnement. Donc, il y a eu 40 ans d'exploration de Mars où on a essayé de comprendre la géologie, l'environnement, le climat. Et puis, quand on a été un petit peu plus convaincu de ce qui se passait là-bas, on a envoyé Spirit et Opportunité, les deux premiers rovers, pour essayer de voir si Mars était habitable. Ensuite, on a envoyé Curiosité, qui est toujours en fonction. La première mission à vraiment chercher des signatures de la vie sur Mars, c'est Persévérance.
Donc là, on doit attendre longtemps avant d'avoir les résultats ?
Non,
ou est-ce qu'ils
pas.
Arrivent en temps réel ?
Les résultats arrivent en temps réel. La mission est en train de se passer à l'heure actuelle. Et en ce moment même, Persévérance est en train de déposer des échantillons dans des containers à la surface du cratère G0 pour une mission future auquel la France participe. Il y a une grosse part de retour d'échantillons dans quelques années.
Il y a une autre question, Nathalie Cabral. Est-ce que l'humanité est prête à la découverte d'une vie extraterrestre, au sens presque philosophique, mystique aussi ? Est-ce que comment on réagirait à la découverte ? Ça ferait la une de tous les journaux, y compris de l'Orne Hebdo. Et qu'est-ce qui se passerait ? Ça serait une déflagration quand même. Vous y pensez à ça quand vous cherchez ? Vous
oui,
avez peur
bien
de
sûr.
Trouver ?
Non. Non, pas du tout, parce que je crois qu'en fait, on fait un mauvais procès au public en pensant qu'il y aurait de la panique, je pense qu'il y a plus de raisons de paniquer sur la condition actuelle de l'humanité à la surface de la Terre que de... Parce que de toute façon, s'il y avait, si les extraterrestres avaient vraiment une vision négative et venaient pour créer des problèmes, ça ferait longtemps qu'ils seraient là. Ils n'auraient pas attendu qu'on ait un petit peu les moyens de se défendre. Il y a 100 000 ans, 1 million d'années, on vivait dans les arbres ou dans des grottes où on avait des lances et des flèches.
De nous nettoyer.
Oui, non, je ne suis pas inquiète.
Face à vous, Nathalie Cabral-Hillet, vous l'avez compris, la star de l'équipe. Je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs de se procurer d'urgence l'édition du jour de l'Orne Hebdo dans laquelle ils s'épanchent avec des comparaisons parfois audacieuse, je cite « France Inter m'a proposé de rejoindre l'émission de Mathieu Noël. C'est un peu comme si Didier Deschamps m'avait appelé pour me dire que j'étais sélectionné dans l'équipe de France. » C'est à peu près ça, c'est vrai. Hein,
vous avez pas reconnu la référence ?
Oui, je sais, c'était une blague parce que moi j'ai dit que je rejoignais Real Madrid quand je suis venu ici. Oui.
Oh là là, vous saviez pas, c'était... Content, c'est moi qui vous l'ai dit.
C'est vrai ?
Oui, je balance.
C'est vous qui m'avez balancé ? Quentin, vous êtes donc, si je vous suis, le Mbappé du micro-trottoir. Alors dites-nous comment ont réagi les Alençonnais, puisque c'est là que vous êtes rendu, à votre pancarte astrobiologie.
Eh bien, le TER RER Normandie 8354 s'arrête et en sortant de la gare, derrière le théâtre d'Alençon, se trouve le skatepark où je fais une première rencontre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Myriam.
Myriam, vous avez quel âge ?
J'ai 17 ans. Et puis je suis en classe de terminale au lycée Marguerite de Navarre à Alençon.
Allez, c'est mon lycée.
C'est vrai ? Génial.
Mais oui, bienvenue à la maison les amis. Alençon, c'est 30 000 habitants, préfecture de l'Orne. C'est la ville où j'ai grandi. Myriam s'amuse à découper notre mot du jour.
Du coup, astro, les astres, les étoiles, le ciel et biologie, la vie, l'étude de la vie. Bah moi, je me dis que c'est pas possible comme on est. Genre, il y a autant d'étoiles, autant de planètes. Je me dis que c'est pas possible qu'on soit tout seul. Il y a forcément quelques formes de vie. Je trouve ça un peu stylé d'imaginer d'autres trucs. Il y a les films qui ont baigné un petit peu notre vie. Et du coup, on se dit... Là, tout de suite, la forme verte, ou les aliens dans Mars Attack, par exemple, ou les trucs comme ça, on pense à ça, mais je pense que ça prendrait pas forcément cette forme-là. Je pense des sortes d'animaux, un petit peu comme ici, mais d'autres formes, genre qui s'adapteraient à un autre type d'environnement.
François, un retraité de 82 ans, intrigué par la pancarte astrobiologie, me donne son avis sur la question.
Ce n'est pas à notre portée. Tout est trop loin. L'homme sera disparu avant qu'on ait rencontré quoi que ce soit d'étranger à notre Terre. J'en suis bien persuadé, malgré tout ce que tous les racontars américains...
Oui, les racontars américains, c'est les films. Je traverse la rue aux Sieurs, la rue commerçante piétonne qui tente de tenir debout malgré les grandes zones commerciales qui encadrent le genre de petite ville qui est Alençon. Au bout de la rue, je m'installe en terrasse et je fais connaissance avec le patron. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Moi, Didier.
Didier, vous avez quel âge ?
J'ai 59 ans.
Qu'est-ce qu'on fait là ? On est où ?
Qu'est-ce qu'on fait là ? On est à la brasserie La Dentelle à Alençon. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de boire un café. Parce qu'il pleut dehors.
À peu près comme tout le temps à Alençon. Je sors,
c'est vous qui dites.
C'est la Normandie. Je sors la pancarte Zoom Zoom Zen.
Astrobiologie.
Qu'est-ce que c'est ?
Joker. Adija.
Il m'avait prévenu, Didier. C'est pas le plus bavard. C'est donc sa femme qui encaissait un client qui vient à la rescousse. Notre mot du jour rappelle à sa femme un film qu'elle a vu récemment.
J'ai vu Avatar 2. Ça m'a fait trop mal. Ça a une relation un petit peu avec l'histoire de l'humanité. Là où on va, on fait des dégâts. Pourquoi on va ailleurs ? Il vaut mieux rester ici, sérieusement. Je me suis dit, si un jour, par exemple, on a la possibilité de trouver et d'y aller, nous, on ne sera pas, on fera pas la paix avec eux. Nous, on n'ira pas en paix, on ira pour faire la guerre. Tu vois, l'être humain, là où il va, il détruit.
Je remonte la rue de Bretagne maintenant, où au numéro 85 se trouve une petite plaque à côté d'une porte bleue. C'est la maison qui fut la première résidence de Daniel Balavoine.
Ah, j'ai cru la vôtre.
Non, quand même pas. Et c'est non loin d'ici, dans son petit manteau à côté de sa maman, que je tombe sur cette petite personne. Bonjour.
Bonjour.
Quel est ton prénom ?
Gabriel.
Gabriel, tu as quel âge ?
J'ai 9 ans. Astrobiologie. La biologie ?
Ouais. C'est quoi ? Tu sais à peu près ce que c'est ?
Oui, c'est quand on fait des choses bio.
Ouais.
Sans pesticides ?
Ah oui, c'est normal, c'est normal. Je lui explique donc...
Fusée sans pesticides.
Je lui explique donc notre thème du jour et Gabriel se rappelle d'un personnage, lequel ?
E.T.
C'est quoi E.T. ?
C'est un extraterrestre qui vient sur Terre et il y a un enfant qui le recueillait et qui essaye de le renvoyer à sa maison.
Ça t'a plu ce film ?
Oui. Il est vert.
Il n'est pas tout à fait vert.
Oui, un petit peu.
Un peu marron.
Oui, entre vert et marron. Il a des gros yeux.
Imagine là, il y a un truc qui se pose là et il y a un extraterrestre qui est là. Comment tu réagis ?
Bah, je lui dis bonjour. Oui. Un minimum de politesse.
Bah, c'est la moindre des choses. Je retourne sur mes pas et je termine place de la Madeleine. La basilique sonne chaque quart d'heure et à ses pieds, le marché bat son plein. C'est là où le petit Quentin allait en bus avec sa mamie Yvette.
Petit Quentin, mamie Yvette.
Je discute avec ce monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom, monsieur ?
Thierry.
Thierry, vous faites quoi dans la vie, vous ?
Bah, je suis maraîcher.
Et vous venez au marché d'Alençon, là ?
Eh ben oui. C'est un petit marché rural, qu'on a notre clientèle qui est fidèle.
Je vais vous faire lire un mot.
J'ai pas mes lunettes, par contre.
Ah, mais j'ai écrit en gros.
Astrobiologie. Bah oui, de voir des extraterrestres, là, je sais pas comment on appelle ça.
Vous y avez déjà pensé ?
Bah oui, comme chaque humain, hein, ça tourne dans le cerveau. Hein. Est-ce qu'ils ont la même civilisation que nous ? Est-ce qu'ils nous surveillent de là-haut et puis que nous, on ne les voit pas ? C'est peut-être ça.
Qu'est-ce qu'ils vont se dire sur Thierry ?
Bah, qu'ils viennent pas me prendre pour rentrer dans leur monde. Hein.
Thierry,
pour être enlevé par les.
Il se voit déjà aspiré vers un autre monde. Là, au milieu des odeurs et des couleurs du marché, laitue, oignons, choux, carottes, je repense forcément à ma grand-mère qui est quand même l'une des preuves que la vie peut se transformer en une bonne étoile.
Oh !
Quelle belle chronique, Quentin. Nathalie Cabrol est avec nous, on a beaucoup de chance. Vous êtes astrobiologiste, vous êtes chercheuse pour la NASA, directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions? Il y a Khadija qui fait un parallèle avec Avatar, qui nous dit « Si on va quelque part, nous, les humains, on n'ira pas en paix, on ira pour faire la guerre. L'être humain est comme ça, partout où il va, il détruit. » C'est intéressant au sens où on pense toujours que les extraterrestres, s'ils existent, peuvent nous attaquer. On les voit parfois comme une menace, à tort certainement. Mais on pense jamais à nous, le contact avec une civilisation extraterrestre. Est-ce qu'il faut s'en méfier aussi?
Je dirais qu'il y a beaucoup de projections humaines dans notre vision des extraterrestres. Et il y a évidemment la nature belliqueuse de l'humanité. Mm-hmm. On est des primates à peine évolués, je dirais. Mais j'ai beaucoup aimé tous ces témoignages. C'était très, très intéressant. Et ce que cette dame a dit sur Avatar et sur les humains allant amenant peut-être la guerre ailleurs, je dirais que je ne pense pas à la guerre nécessairement. Mais il y a quelque chose de très profond dans ce qu'elle a dit. C'est que on part toujours avec soi-même. Et à l'heure actuelle, si l'exploration planétaire, elle est essentielle, elle est importante, et de toute façon, elle est dans notre nature, ça arrivera. Il n'est pas question d'aller explorer ou d'exporter l'humanité sur une planète B parce qu'on est en train de détruire celle-ci. Ce n'est pas du tout le but de l'exploration. Donc, il est important pour nous de comprendre les leçons qui se présentent à nous à l'heure actuelle, de celle de l'évolution de notre environnement, de la responsabilité qu'on a.
Et pas un échappatoire, l'espace.
C'est absolument pas un échappatoire. Et n'importe qui dit ça, et il y en a, je m'y oppose farouchement.
Elon Musk, si tu nous écoutes, il écoute France Inter.
Oh oui, non,
tous les jours. Attention. Manon Mariani.
Il le sait. Bah
justement, les voyages de Elon Musk qui veut faire sur Mars, comment vous le voyez, vous?
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y en a certaines auxquelles je m'oppose, c'est-à-dire, bien sûr, l'échappatoire, l'aspect qui est un petit peu... pas vraiment, enfin je dirais non réalistique, ou non réaliste, je m'excuse.
Ramène-vous
30 ans aux États-Unis et simplement de dire qu'on va emmener 1 million d'humains dans les 10 dernières
années.
Non,
pas possible.
Non. Et puis une fois qu'on est sur Mars, je pense qu'il y a beaucoup de... la discussion sur ce sujet a baissé de ton quand les gens paraissaient très très heureux de dire « j'ai un billet simple pour aller sur Mars ». Ça fait 25 ans que je travaille sur l'étude de Mars, je peux vous garantir qu'on me donnerait un billet simple, je ferais un petit peu la tête.
Quentin ?
En même temps, on a déjà commencé à polluer l'espace, si on réfléchit bien. On parle de 36 000 débris spatiaux de plus de 10 cm recensés en 2022. C'est déjà un problème ?
On a un anneau autour de la Terre désormais, et oui, c'est un problème. On commence à penser à comment nettoyer cet anneau, parce que ça pose des problèmes. Vous entendez parler de temps en temps de
débris
qui viennent percuter la station spatiale. C'est un véritable danger pour les astronautes, oui.
On continue à rêver avec l'astrobiologie dans Zoom Zoom Zen et avec notre invitée Nathalie Cabrol from the NASA, je le rappelle, j'en suis fier. Tania Dutel viendra nous dire si elle croit aux extraterrestres et nous verrons avec le Zoom Zoom Test si Quentin lui a mérité ou pas que l'Orne Hebdo lui consacre sa une. Mais d'abord, voici Hiroshima, Loose and the Yakuza sur Inter.
Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Je me laisse porter par tous tes sons qui dansent et j'en oublie les conséquences. Énorme, un cri en vrai. Dans le cœur, un peu tendresse, que en deux chaises, je ne comprends pas. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Essayer de mélanger les mauvaises herbes. Les blessures sont des marques qui prouvent qu'on s'est toujours démené. Qu'on avait tout fait pour ne plus jamais être blessé. Alors...
petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors, la NASA est formelle. On a plus de chances d'assister un jour à la découverte d'une exoplanète habitable que d'assister à une victoire de Quentin dans le quiz en ce mois de janvier. Objet d'un très beau portrait dans l'Orne Hebdo en kiosque aujourd'hui. Quentin y affirme, je cite, « Ma voix, c'est mon plus bel outil de travail ». Et clairement, c'est pas ton cerveau. Jouons au Zoom Zoom Test. Pourquoi ? C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi tant de fausses haines alors qu'il y a entre nous tant de vrai amour ? La réponse, vous la connaissez, ouais. Créer une tension dramatique autour d'un quiz où il n'y a rien à gagner. Aujourd'hui, évidemment, nous partons...
vers l'infini et au-delà !
Et au-delà de l'infini se cachent, c'est bien connu, les extraterrestres. Notre invitée, l'astrobiologiste de la NASA Nathalie Cabrol, en connaît un rayon, mais certains s'y connaissent encore plus en matière d'aliens, puisqu'ils ont eu la chance de croiser ce qu'on appelait dans les années 70 au journal de 20h...
un OVNI, comme l'on dit en raccourci.
Oui, en raccourci, bon maintenant on dit les ovnis tout court. Hein. On a entendu le témoignage de Nathalie concernant la possibilité de vie extraterrestre. J'avais envie qu'on écoute à présent d'autres spécialistes de la question, peut-être un peu moins diplômés, mais tout aussi spécialistes à leur manière. Attention, top! C'était une nuit de pleine lune dans les Alpes. J'ai observé un objet horizontal extrêmement lumineux se déplacer au-dessus de la cime des montagnes avant d'osciller à 45 degrés, c'est précis, pour foncer à une allure vertigineuse vers le ciel, vers le cosmos. Engin en forme de V, accélération fulgurante, boule lumineuse de couleur changeante. Les gens qui me connaissent savent que je suis très cartésien, mais je sais ce que j'ai vu, je sais exactement ce que j'ai vu. Manon Quentin, à qui doit-on ce témoignage édifiant ?
Oh là là, c'est chaud.
Paco Rabanne ?
Ah.
Francis Lalanne,
ah,
ou Nelson Montfort.
J'irais A, Paco Rabanne.
Je dirais Nelson Montfort. Ça me dit quelque chose.
Ça vous rappelle quelque chose.
Il aurait fait en direct, non ?
Réponse, c'est oui, c'est bien Nelson qui a vécu cette rencontre étonnante. Une chance que ça tombe sur un polyglotte, hein, pour communiquer avec des extraterrestres, c'est pratique. Même si, question traduction, Nelson a eu des jours sans, notamment le jour de la victoire de Michael Chang à Roland-Garros. Chang qui remerciait Lord Jesus, le Seigneur Jésus.
Lord Jesus, because without him I wouldn't have this talent to play tennis.
Et j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne...
Nelson, il a remercié Jésus.
Et oui, c'était Jésus Nelson, pas Luigi. Inoubliable, inoubliable Nelson Montfort, dont la rencontre dans les Alpes avec cette soucoupe volante remonte à une quarantaine d'années, a été depuis élucidée. Il s'agissait en fait d'un phénomène bien connu des montagnards qu'on appelle le Génépi. Attention, top ! Un institut anglais a réalisé un sondage pour désigner la personne qui serait, en cas d'invasion, la plus apte à lutter contre les extraterrestres. Selon vous, qui l'a emporté ? Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, Richard Peter Moore, le patron du MI6, les services secrets britanniques, ou Arnold Schwarzenegger.
Génial. Moi, je dis Arnold. Allez.
Moi, je veux dire les Anglais.
Vous prenez vraiment les gens pour des cons, Manon Marie.
Non, c'est ça,
et vous
ça.
Avez raison, Manon. On n'est jamais déçus. Et oui, à la question, à qui feriez-vous confiance pour vous défendre contre les extraterrestres s'ils s'avéraient belliqueux ? Les gens ont répondu, un, Arnold Schwarzenegger, mais ils ont retrouvé leur sens commun assez vite, puisqu'en deux, ils ont dit Will Smith. Et en trois, Bruce Willis. Visiblement, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas tapé Bruce Willis sur Google Actu. À noter que les gens ne sont pas fut-fut, mais ils ont quand même de l'humour, puisqu'en 12e position, ils ont dit Boris Johnson. Attention, top ! Quel chanteur très célèbre a été contacté de façon télépathique par deux aliens quand il avait 8 ans ? Deux aliens qui lui ont donné un aperçu du succès qu'il allait avoir dans le futur. Dick Rivers, qui a ensuite porté plainte contre les aliens parce que quand même le succès n'était pas aussi ouf qu'annoncé. Elvis Presley ou John Lennon ?
B, Elvis. C'est sûr.
Ah, bah c'est, oui, sûr. C'est sûr. Allez, moi je dis John Lennon.
Ouais.
Manon était plus rapide et de toute façon plus futé. Bonne réponse de Manon. Réponse B, il s'agit du King en personne. Toute notre jeunesse avec Cyril. Son manager, le savoureux colonel Parker, qui était aussi colonel que moi je suis curé, a également déclaré avoir vécu des choses paranormales alors qu'il était avec Elvis. Périphrase astucieuse pour dire le LSD était pas cher à l'époque. Enfin, attention, top! Retour en France pour conclure ce quiz avec un acteur qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Il n'est pas très MeToo compatible, pas politiquement correct du tout. Il aime le monde d'avant, quand on n'emmerdait pas les hommes pour des broutilles. Bref, il est l'idole de Cyril Lacarrière. En 1990, à la suite de certaines observations étonnantes dans la nuit du 5 novembre, quel célèbre acteur donc a déclaré « On a toujours l'impression qu'on veut cacher la vérité aux gens. Il paraît qu'au Pentagone, on a récupéré des aliens. Ça me fait rêver. Je ne crois pas en l'explosion d'un satellite russe. Je crois aux ovnis. Il faut croire qu'on n'est pas seul. » Gérard Depardieu ? Alain Delon,
ou Jean-Pierre Marielle?
Alain Delon.
Ah, oh, j'aurais dit pareil, mais bon, ouais, je vais dire Marielle.
C'était réponse le... B, oui, quand il y avait un piège, idole vivante de Cyril Lacarrière, sinon c'était Marielle, mais non, ses propos ont les doigts à Alain Delon, et tant pis si finalement ces étranges observations du 5 novembre 90 ont été attribuées à l'entrée dans l'atmosphère d'un morceau de fusée russe. Ce n'était pas la première fois qu'Alain Delon disait n'importe quoi, et en 1990, encore moins la dernière. Victoire 2 2-2, il n'y a pas d'ex-aequo dans cette émission. Nathalie, je vais vous demander de désigner le vainqueur.
J'ai fait la une dans l'Orne Hebdo, je me suis donné cette semaine.
Ouais, justement.
Oui, mais en même temps, vous avez eu le papier dans l'Orne Hebdo, peut-être...
Non, mais allez, allez.
Il faudrait peut-être un petit...
Je la donne à Quentin.
Pitié, Quentin remporte le quiz.
Allez.
Voilà.
L'astrobiologiste Nathalie Cabrol est avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom Zen pour répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» On a beaucoup parlé dernièrement du télescope James Webb avec ses images incroyables. C'est d'ailleurs une photo de ce télescope qui illustre la couverture de votre livre. Est-ce que ça change la donne pour une spécialiste comme vous ou c'est pour le grand public ?
C'est pour tout le monde. La première image de James Webb, le premier fond de ciel, où on découvre tellement de galaxies poussées vers le rouge, en fait. On n'attendait pas autant de galaxies si tôt dans l'histoire. Oui, absolument. Il y a la prochaine révolution en cosmologie, pas dans cette image elle-même, mais dans une des autres images du livre. Ici, ce que vous voyez sur la couverture du livre, c'est une pouponnière d'étoiles avec des mondes en formation, des systèmes planétaires en formation.
Et qu'est-ce que vous appelez le fond de ciel ?
Le fond de ciel, c'est quand vous regardez, vous tournez le télescope vers l'espace, vous avez tout l'univers qui paraît noir et puis ensuite toutes les galaxies que vous voyez sur ce fond de ciel. C'est ça que j'appelle le fond de ciel.
C'est ça que vous appelez, c'est comme la toile de fond. Est-ce que finalement, à l'issue de notre discussion, la généalogie de la vie sur Terre, c'est ça le vrai but de l'astrobiologie ? Pouvoir remonter comme ça le fil de la vie.
C'est un des buts, de comprendre notre propre origine. On veut aussi essayer de comprendre l'origine de la vie en général, parce que bien évidemment, comme on le disait, il y a des briques de la vie, les éléments principaux de la vie, fondamentaux. Comprendre l'origine, c'est une chose, c'est pas le plus facile, parce que l'origine sur Terre, elle a été effacée par l'érosion, par la géologie, par la tectonique des plaques. Et donc, peut-être une autre façon de l'aborder, c'est d'essayer de comprendre la nature de la vie, qui est le processus de la vie. Et là, ça devient extrêmement intéressant, parce qu'il y a des théories biophysiques à l'heure actuelle qui semblent montrer que la vie, c'est la réponse la plus effective, efficace de l'univers pour combattre l'entropie, c'est-à-dire le désordre et le chaos. Ça veut dire simplement que peut-être la vie est inévitable et que c'est un phénomène universel.
Et si la vie est inévitable, elle est forcément ailleurs. Quentin ?
J'aimerais évoquer avec vous les plaques pionnières. J'en ai parlé cet après-midi avec l'équipe. Depuis 72, on envoie des sortes de messages avec des gravures sur des plaques. La première indiquait un dessin de l'homme et une femme, et aussi le schéma un petit peu de notre système solaire. Plus récemment, on a envoyé de la musique, des prix Nobel. À quoi ça sert concrètement ? Et qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un petit peu comme des bouteilles à la mer. On peut dire que ça sert à rien, sauf que de temps en temps, il y a des bouteilles à la mer qui sont trouvées sur le rivage et qui permettent à des gens de communiquer les uns avec les autres. Ça s'est produit plus d'une fois. En fait, ce dont vous parlez, c'est, je dirais, la première étape d'une civilisation qui s'éveille à l'ère de l'ère spatiale, qui découvre sa position dans l'espace et qui commence à se poser, pas seulement à se poser des questions, parce que celle-là, on se la pose depuis que l'humanité est humanité, mais simplement dire on a pour la première fois les moyens technologiques d'envoyer des vaisseaux spatiaux en dehors de notre système solaire. On va dire qu'on est là, on va dire qu'on existe.
Pardon, anecdote personnelle, mon papa était traducteur à l'ONU, il m'expliquait qu'il avait travaillé un texte, il fallait traduire le même texte dans toutes les langues à destination des éventuels extraterrestres. Oui. Et je m'étais toujours demandé, mais ça sert à quoi de traduire dans toutes les langues du monde ? Parce que c'est quand même, l'extraterrestre ne parlera aucune de ces langues en fait. Donc pourquoi toutes les langues ? Pour qu'il puisse lui-même...
Pour la représentation de l'humanité, simplement pour montrer la diversité. La diversité des cultures, la diversité des langages, l'évolution de la vie sur notre planète.
C'est vrai. Curiosité qui m'a amusé en parcourant votre livre, au chapitre Écho de vagues cosmiques, surgit soudain l'équation de Drake, pas le rappeur, c'est important de le préciser, une variante de l'équation de Drake plus précisément. Qu'est-ce que c'est cette équation de Drake et à quoi elle sert ?
L'équation de Drake, c'est la première vision de l'astrobiologie moderne, en fait. Et Frank a utilisé une technologie qui était celle du radar, qui sortait de la guerre, et il a utilisé des radiotélescopes et tourné ses radiotélescopes vers le ciel. Mais c'était le tout début, c'était les années 60, et on commençait à se demander si on pourrait utiliser cette technologie pour communiquer ou pour recevoir, en fait pas pour communiquer, mais pour écouter, pour savoir s'il y avait d'autres civilisations. Et l'équation de Drake, c'est pour essayer de comprendre combien il y avait de civilisations qui était visible dans la radio, si vous préférez, dans le spectre radio, dans notre galaxie. Alors, il y a tout un tas de termes. C'est pas véritablement une équation. Hein, c'est une formule.
Ça y ressemble, quand même.
Oui, non, mais c'est une formule.
Pour moi, c'est une équation.
Oui, c'est
une formule. Oui, d'accord.
C'est une formule mathématique. C'est simplement quelque chose qui nous aide à réfléchir. Et donc les termes, c'est la manière dont on décline l'astrobiologie aujourd'hui. Quels sont les types d'étoiles qui peuvent avoir des systèmes planétaires autour. Parmi ces systèmes planétaires, combien il y en a qui vont avoir de planètes dans la zone habitable, qu'on dit habitable. Ensuite, parmi ces planètes, combien il y en a qui vont avoir un environnement pour la vie. Parmi celles-ci, combien vont avoir la vie. Et parmi cette vie, quelle est la vie qui va devenir intelligente? Quelle proportion devient intelligente?
Justement, Nathalie, je citais tout à l'heure pour rigoler K2-18b que j'ai dû trouver dans Science et Vie Junior. Il y a une planète en particulier qui intéresse les astrobiologistes en ce moment, une qui est plus prometteuse que les autres?
Il y a non seulement des planètes qui sont plus prometteuses que les autres, alors pour tout un tas de raisons. Il y en a qui sont prometteuses parce qu'elles sont proches de chez nous. En fait, il y a Proxima Centauri, et celle-là, elle est à 4 années-lumière, c'est-à-dire pratiquement la porte à côté, sauf qu'il faut quand même 7000 ans pour y aller.
Ah ça c'est oui, 7000 ans quand même, oui.
Petit détail. Avec la technologie actuelle. Mais il y a beaucoup quand même de travaux qui sont faits sur la propulsion, donc ça changera. Ensuite, il y a des promesses de planètes qui ressemblent un peu à la Terre. Qui ont vraiment des océans à leur surface.
Mais elles sont plus loin, quoi.
Elles sont plus loin. Et puis, des promesses aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres planètes qui ne ressemblent pas à la Terre, mais qui sont habitables. Et il y en a qui sont super habitables, plus habitables que la Terre, en théorie.
Plus habitables que la Terre?
Oui, plus habitables que la Terre. C'est-à-dire que non seulement elles ont les conditions, mais en plus elles sont autour d'étoiles qui ont des durées de vie beaucoup, beaucoup plus longues.
Incroyable, fascinant. Il nous faudrait 6 heures avec vous, nous ne les avons pas. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, elle aussi, elle a presque travaillé aux États-Unis puisqu'elle a bossé au Buffalo Grill. Depuis, elle est devenue une humoriste star des réseaux sociaux. Tania Dutel viendra nous dire ce qu'elle retient de cette émission sur l'astrobiologie. Mais d'abord, que retenir de ce qui agite les réseaux sociaux? Ça, c'est votre précaré, Manon Mariani. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la monétisation des vidéos sur les réseaux qui commence à poser de sérieux problèmes.
Que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram, il y a ce qu'on appelle des contenus monétisés, c'est-à-dire des contenus pour lesquels les créateurs sont rémunérés. Il y a plusieurs types de monétisation. Partenariat avec une marque, les dons ou encore les abonnements premium. Tout dépend de la plateforme sur laquelle il se trouve. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la monétisation sur YouTube et en particulier celle qui concerne la publicité. Je m'explique. Quand on est YouTubeur, on est soumis à des règles dictées par la plateforme. Donc si on respecte les règles, notre vidéo peut être monétisée, donc avoir de la publicité dedans. Une vidéo de 40 minutes de Léna Situation peut comme ça être entrecoupée de 5 à 10 publicités. Des bénéfices pour YouTube et le créateur de contenu en question. Sauf que la plateforme de vidéo a durci ses règles concernant la monétisation de ses contenus et que les youtubeurs ne sont pas contents, notamment sur la règle à propos des gros mots.
Sachez qu'à moins d'être le créateur le plus poli du monde, YouTube nous casse bien les couilles avec sa nouvelle règle de démonétisation de gros mots. C'est ridicule, la censure bousille la vidéo et leur règle est rétroactive. Un simple « oh merde » suffit à être démonétisé. Pardon.
Là, c'est la réaction du créateur de contenu Terracid qui compte plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il explique donc qu'il n'est plus possible de dire un gros mot dans une vidéo, sinon elle se fait démonétiser. Et la nouvelle règle ne concerne pas que les nouveaux contenus, mais aussi les anciens. Du coup, lui, comme d'autres YouTubeurs, se retrouve avec des centaines de vidéos soudainement démonétisées.
Mais que dit la règle de YouTube spécifiquement sur ces gros mots?
Alors, il est dit qu'il est interdit d'utiliser un langage vulgaire dans le titre de la vidéo et dans la miniature, mais aussi durant les 7 premières secondes, sinon boum, démonétisé. Le point qui est encore flou, et c'est ce que vit Terracid, est concernant le langage vulgaire tout au long de la vidéo, donc après ces fameuses 7 premières secondes. YouTube précise qu'on n'a pas le droit d'utiliser des gros mots de manière constante, mais il n'y a rien de plus spécifié. Pas de timing, pas de nombre limite d'insultes, par exemple. On sait juste que les mots « chier » et « bordel » sont autorisés.
Ah bon ?
C'est donc pour ça que dans la dernière vidéo de Squeezie, on entend ça.
V,
T'es déjà dans le tryhard. Pourquoi on invite des invités comme ça? Il est déjà en train de cacher toutes ses émotions.
Des bips quand il dit des gros mots. Sauf qu'il faut imaginer le travail que ça représente pour un vidéaste de biper toutes ses vidéos, les nouvelles, mais surtout les anciennes. Oui. C'est quasiment impossible. Mais vu que manifestement YouTube a un détecteur de mots vulgaires bien au point, les créateurs sont obligés de faire avec. En tout cas, pour le moment, la plateforme ne leur apporte aucune solution.
Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres règles à part ce bannissement des gros mots?
Oui, et notamment des mesures très compliquées pour les youtubeurs jeux vidéo. Leurs vidéos sont maintenant démonétisées quand elles contiennent des tueries de masse, des bombardements ou certains actes de violence, et je parle de ça dans un contexte virtuel de jeux vidéo. Donc comment jouer à des jeux de guerre ou même à GTA sur YouTube, ça paraît maintenant très compliqué. C'est vrai que ce système de rétroactivité ne semble vraiment pas juste pour les vidéastes, car eux, ils ont respecté les règles mises en place par YouTube, et ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui elles ont changé. On parle tout de même d'années de travail pour certains. Alors j'ai contacté YouTube qui m'a envoyé une liste non exhaustive concernant les gros mots bannis, en précisant que le langage vulgaire peut être utilisé seulement s'il est rare. Merde et salope peuvent être employés et les contenus musicaux et humoristiques ne sont pas soumis à ces règles. Alors tout ça paraît donc encore très flou et pas sûr que ça rassure les youtubeurs.
C'est vraiment très très flou, hein, oui. YouTube, ce qu'ils font en ce moment. Merci beaucoup Manon Mariani. Du côté de Cyril Lacarrière, en tout cas c'est le soulagement. Si l'interdiction de la vulgarité n'est pas rétroactive, alors ça veut dire que ces douces assorts pourront rester en ligne. Zoom Zoom Zen revient juste après. Lloyd Carner, Nobody Knows sur Inter.
I told the black man he didn't understand. I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran, I'm the boss, and I'm supposed to have a plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man? Sitting in my sunshine, trying to catch a tan. Listen, outside I can feel the sun's rain. I love it, inside I was bumping John Wayne. Made peace, you can never say the wrong name. ADHD, say my life's one long game. And don't fuck it up, say reveal nothing. Guys I used to run with are steady still puffing. But what did they expect? Yo, what did they expect? Hey yo, I never used to think of the effect when my dad passed, straight biological neglect. The other one, sunset, sitting on the steps, I was left. Mum came, heavy in her breath, tears on my face, transferring to her chest, I was left. And she would say, he ain't coming. But I can tell him that you love him. And I would shout, nah, love means nothing. Say I wanna hug, I wanna talk, I want something. See, I reached the black man, he wouldn't take my hand. Told the white man he didn't understand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran on the bus, and I'm supposed to have the plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine? My eyes wide, tears cried, the news lied, but he died, so who am I? And yo, I'm asking, who am I? Because my kid will maybe have them blue eyes, and he won't understand the pain that's in mine. And late at night I wonder maybe that's why, because I never wanna hear the same cry from a kid who doesn't fit in to the world that he live in. A half cars, just kidding, wear a mask, just kidding, move arms, just whip him. You're no sitting, there's no living. And yo, you can't hate the roots of the tree and not hate the tree. So how can I hate my father without hating me? I told the black man he didn't understand. Reached the white man, he wouldn't take my hand. Sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran, I'm the boss, and I'm supposed to have a plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine, trying to catch a tan?
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
sa polyvalence et sa force. Et je suis sûr qu'entre deux salades d'accueil au Buffalo Grill, déjà à l'époque, elle s'était renseignée sur l'astrobiologie. Bonjour Tania Dutel.
Tout à fait, bonjour Mathieu. Alors Nathalie Cabrol, j'ai vu que vous travaillez à la NASA. Je sais qu'il travaille en Europe, mais j'imagine que vous connaissez Thomas Pesquet. En tout cas, j'imagine qu'on vous le demande souvent, parce que moi, je suis humoriste, on me demande tout le temps si je connais Gad Elmaleh. Et oui, je connais, mais je connais surtout Mathieu Noël. Alors l'astrobiologie, moi quand je l'ai lu, je dis une syllabe en trop. J'aurais vraiment préféré avoir en thème l'astrologie. D'ailleurs, vous connaissez Elisabeth Tessier? Parce que c'est l'astrologue qui faisait les horoscopes dans Télé 7 jours. On était abonnés quand j'étais enfant. François Mitterrand faisait aussi appel à elle de 90 à 95 pour prendre des décisions pendant son mandat. Incroyable, n'est-ce pas? Et c'est vrai, je me suis quand même permise de regarder. Vous êtes du signe Vierge. Et j'imagine qu'avec votre travail, vous n'avez pas le temps de regarder votre horoscope. Mais me semble-t-il, ça fait toujours plaisir de le connaître. Donc voici votre horoscope de la semaine. Alors vous êtes en pleine négociation avec votre direction afin d'obtenir plus de possibilités de manœuvre. Vous avez fait vos preuves, vos compétences sont largement attestées. Vous espérez explorer à votre guise votre manière singulière de travailler. J'aurais voulu aller un peu plus loin en faisant votre thème astral, mais je n'avais pas votre heure de naissance. Alors reprenons cet horoscope, hein, parce que je sens que ça vous parle. Donc vous avez fait vos preuves, c'est évident, mais peut-être que vous pouvez nous éclairer sur la négociation pour plus de possibilités de manœuvre. Est-ce que ça concerne du nouveau matériel pour aller sur Mars, peut-être? Ou est-ce que la NASA bloque quelque chose? Après, si vous êtes en pleine hésitation, vous pouvez peut-être faire appel à Elisabeth Tessier. Sur son site, il y a une adresse en Suisse. Hein. Je pense que si vous lui écrivez, vous en saurez plus. Parce que d'ailleurs, elle a gardé des enregistrements de ses échanges avec le président. Et elle lui disait que certains jours, et d'après les astres, il allait manquer d'objectivité. Donc pour vous, en ce moment, suffit que Mercure soit en rétrograde, bah c'est cuit, quoi.
Oh, pour une vierge, c'est terrible.
Exactement. J'en profite d'ailleurs pour embrasser mon voyant. Bisous, JD. Sinon, j'ai vu que les deux derniers enfants d'Elon Musk s'appellent XAE, AX Barbare et Exadark Sidéral. C'est commun chez les scientifiques de donner ce genre de prénom?
Non,
c'est que lui.
C'est que lui.
Oui, c'est que lui. J'ai fait mes recherches pour trouver comment le premier prénom se prononce et c'est XH12. Je suis pas là pour juger. Moi, j'ai un prénom court et mes frères et sœurs aussi. Mes parents, en fait, nous ont dit qu'ils avaient fait ce choix au cas où ils devaient nous disputer, c'est plus rapide. Tania, hop, là, j'arrive. Je comprends que j'ai fait une bêtise. XH12, bon, bah, ça prend plus de temps. Après, j'imagine qu'ils disent XH ou 12, quoi. Sinon, à la question, quelles sont les chances qu'une autre forme de vie intelligente existe dans l'univers, vous répondez, il y a différents modèles, mais les plus pessimistes compteraient une douzaine de civilisations avancées dans notre galaxie. Ben, c'est énorme, et je me dis que s'ils sont avancés comme nous, voire plus, ils ont forcément Instagram, et ben, peut-être qu'on devrait passer pour là pour les contacter. Enfin, en tout cas, je vais demander à Elisabeth Tessier.
Oui, je pense qu'elle a un avis tranché sur la question. Ouais. Merci beaucoup, Tania Dutel. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Merci à vous, Nathalie Cabrol. Je rappelle que vous êtes chercheuse pour la NASA, comme on l'a redit avec Tania, directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI. Et je rappelle surtout votre livre à découvrir, À l'aube de nouveaux horizons. Et Dieu dans tout ça, Nathalie, il nous reste une minute. Je pense que c'est suffisant pour traiter de la question de Dieu.
Oui, on m'a donné une minute et demie pour parler de l'histoire de l'univers l'autre jour, alors ça ne devrait pas poser de problème.
Alors Dieu, Nathalie.
Eh bien Dieu, parlons-en. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a parmi mes collègues des chercheurs qui sont croyants et d'autres qui ne sont pas croyants, et ils ont toutes les religions et d'autres n'en ont pas. Personnellement, je ne suis pas religieuse, mais il y a quelque chose de très intéressant à l'heure actuelle, c'est l'évolution de la science et de la religion. Le Vatican admet l'existence possible d'autres
existences. C'est vrai que ça, c'est quand même très nouveau.
Oui, c'est très nouveau, et il se trouve que la physique est en train d'évoluer justement vers cette notion de vie universelle. Donc quelque part au milieu, comme on dit, la science et la religion sont deux inventions humaines, donc quelque part elles doivent se rejoindre.
Merci encore Nathalie Cabrol. Bon retour à la NASA du coup. Hein. Dites-leur que Matthew Noël says hi. Ils seront contents certainement. Merci à tous. Manon Mariani, Cyril Lacarrière, Quentin Lui, dont je rappelle que le portrait trône en première page de l'Orne Hebdo cette semaine. Une consécration qui j'espère rejaillira un peu sur nous. Ghislain Fontana était à la réalisation. Louis Audebert à la technique. Zoom Zoom Zen revient demain 16h pour une émission particulièrement feel good puisqu'on zoomera sur le grand effondrement. Vous savez, ce courant de pensée qui prophétise une fin du monde à court moyen terme.